Voilà une musique qui nous ramène vers l'Afghanistan, Atik Rahimi. On a évoqué tout à l'heure le point de départ de ce livre. Vous prononcez vous-même le titre, ce sera mieux que moi.
Sangue Sabour.
Sangue, voilà, je ne savais pas s'il fallait. Voilà, Sangue Sabour. Oui. Traduction est écrite en dessous, hein, pierre de patience. On va voir peut-être ce qu'est cette pierre de patience ici. Le livre s'ouvre avec juste une indication, quelque part en Afghanistan ou ailleurs, comme une indication qu'on pourrait lire au début d'une pièce de théâtre, une indication scénique, minimale, comme une pièce d'Edouard Bond, hein, une pièce de guerre.
Oui, ça a presque rien. Il y a une parodie théâtrale dedans.
Voilà. Presque rien, mais des éléments qui sont très importants. Le rideau avec les motifs d'oiseaux migrateurs qui sont là dès les premières lignes et qui seront aussi à la dernière phrase. Il y a un kilim, il y a une mouche qui peut passer aussi de temps en temps, il y a un kanjar qui va avoir toute son importance aussi. Tous ces éléments-là, il y en a très peu, mais ils comptent tous.
Oui, pour moi, c'est justement les détails. C'est que dans l'écriture, et que ce soit dans le cinéma, dans l'image, dans la photo, mais aussi dans l'écriture, c'est très très important. À mon avis, c'est peut-être ça qui donne aussi un aspect poétique. Et ça aussi, ça vient de ma culture personnelle, de ma culture poétique de ce pays-là. Donc, parce que là, souvent, c'est le tapis persan. Hein. C'est toujours les petits détails, les petits motifs. Oui, ça, c'est quelque chose. Et puis, ce qui est important, c'est que comment tous ces motifs, tout ça, tout les détails entrent comme un élément narratif dans le livre. Et que chaque chose ait un rôle, bien sûr. Je ne sais pas, peut-être que j'étais très, très influencé par cette phrase de Tchoukov qui disait que si vous mettez une épée sur le mur d'une pièce et si vous n'en servez pas, alors là, c'était la pièce est ratée. Quoi.
Ouais, c'est la leçon d'Hitchcock aussi. Hein, voilà, et aussi pour parler de cinéma, parce que rappelons-le, Atik Rahimi aussi cinéaste, Antoine Guillot, c'était en 2004 qu'était présenté Terre de Cendres au Festival de Cannes.
Et on en avait discuté avec vous et on avait même parlé auparavant du roman Terre et Cendres. Et c'est vrai que l'articulation entre les deux était assez passionnante parce qu'on sentait une écriture cinématographique et des images très claires et presque des notations dès l'écriture de Terre et Cendres qu'on ressent aussi dans ce nouveau livre, notamment dans votre attention au son. Où vous allez parler beaucoup des sons qu'il y a à l'extérieur ou d'une voix qui s'éloigne. Et on se dit que vous avez très clairement les images de ce film qui pourrait être un film difficile à faire, à mon avis, et dangereux à faire sans doute aussi, parce qu'il faudrait parler aussi du danger qu'il peut y avoir à écrire ça. Et le fait que vous l'ayez écrit en français vous a sans doute facilité la tâche. Et comme vous dites, il n'y a pas, vous a libéré d'une certaine autocensure. Et en même temps, vous vous attaquez à des choses pour lesquelles d'autres écrivains, pour moins que ça, ont subi des condamnations religieuses et des choses un peu dangereuses. Est-ce que vous aviez ce sentiment, vous, en écrivant, parce qu'il y a une rage, une volonté de la part de cette femme magnifique de dire des choses que je n'ai, moi, jamais lues et même jamais entendu dire?
Oui, bah écoutez, ça fait quand même... Depuis 2002, je n'avais pratiquement rien écrit comme roman. Et j'étais toujours à l'image du film que j'ai fait sur l'Afghanistan. Mais quand c'est sorti, justement, c'était... suite de plusieurs voyages que j'ai fait en Afghanistan. Parce qu'avant, j'avais un regard très nostalgique sur mon pays.
Vous avez passé combien d'années en France sans retourner en Afghanistan ?
18 ans.
Voilà, 18 ans.
De 1984 jusqu'à 2002. Donc, je suis resté en France. Donc, j'avais toujours, comme tous les exilés, un regard nostalgique vers le pays. Donc, les Afghans étaient toujours fiers d'être Afghans, etc., etc. Mais après mon voyage en Afghanistan, peut-être toutes mes éducations ici en France, et puis la culture française, et aussi toutes les lectures que j'ai eues ici, peut-être ça m'a changé énormément. Donc, quand je suis rentré dans le pays, j'ai vu qu'en dehors de 30 ans de guerre en Afghanistan, mais quand même, il y a quelque chose qui n'allait pas dans ce pays-là. Et ça, c'est la mentalité. Il y a quelque chose, il y a une structure de la pensée dans ce pays. Et quand je me suis replongé dans l'histoire de l'Afghanistan et tout ça, j'ai vu que non, quand même, depuis le 18e siècle, c'est vraiment toute cette région, notamment le pays, est basculée vers complètement une sorte d'obscurantisme très, très atroce. Donc, oui, je voulais justement, une fois, parce que jusqu'à présent, les Afghans, comme je vous ai dit, on avait toujours cette autocensure. Moi, je voulais enlever ça. Et puis, prendre ce risque d'écrire, justement sur des questions très importantes et remettre en question ma culture, ma religion et aussi cette culture de famille en Afghanistan.
Puis on sent aussi la volonté d'aller contre un romantisme qu'on peut avoir en France, que certains écrivains plus ou moins philosophes, certains réalisateurs ont rapporté d'Afghanistan, qui serait la figure héroïque du Peshmerga, merveilleux, combattant, très romantique comme ça dans les montagnes, dont vous rappelez qu'il n'y a pas que les talibans, dont on prétend maintenant qu'ils coupent les doigts à des petites filles qui se mettent du vernis à ongles, ce qui est apparemment plutôt une rumeur, mais que ces merveilleux combattants, dont on parlait aussi surtout quand ils se battaient contre les soviétiques, sont tout aussi intégristes que les autres.
Oui, c'était, il y avait ça. Et deuxième chose, pour moi, ce qui est important, c'est j'en ai marre un peu de cette image des femmes afghanes toujours opprimées, tout ça. Non, ces femmes, elles ont du corps, elles ont de désirs, elles ont tout. Donc, pourquoi ne pas parler de cet aspect-là aussi, ne pas parler aussi de leur force extraordinaire. Donc, et à côté, justement, ces hommes afghans, pourquoi ils s'acharnent contre les femmes ? Enfin, non seulement en Afghanistan, comme je dis, un peu dans la région, hein, c'est en Iran, au Pakistan et dans les pays arabophones, malheureusement, il y a de ça. Donc, pourquoi ça ? D'où est-ce que ça vient, cette culture d'opprimer les femmes ? Et puis, justement, remettre en question justement toutes ces questions de fierté. À la fin, je dis, ce n'est pas que cet homme ayant reçu une balle dans la nuque qui est comme ça, mais tous les hommes devant les femmes sont des hommes paralysés.
Oui, parce que ces femmes ont des corps désirants, mais aussi désirés. Hein. Vous racontez comment on utilise les corps de ces femmes contre leur volonté. Là, il n'y a plus de respect comme ça du corps de la femme. Bien au contraire, il y a une utilisation pour le coup de leur corps.
Bah oui, justement, parce que même quand on regarde, il y a certains bouquins soi-disant érotiques dans les pays persanophones et puis dans les pays arabes, et on s'aperçoit que tout est justement accentué sur le désir de l'homme, mais pas sur le désir des femmes. Hein. Donc, quoi que l'on fasse, c'est évidemment, la femme reste toujours une sorte d'objet de désir.
Catherine Millet.
Oui, moi, je vous écoute avec beaucoup d'attention parce que ce que vous dites là, et puis qui se comprend très bien à la lecture de votre livre, c'est tout. Tout simplement, j'ai envie de dire, mais Dieu sait si c'est en même temps tellement compliqué, c'est le fond sexuel de la politique, de la guerre. Voilà, et ça, je trouve que c'est formidablement rendu dans votre livre.
Oui, parce que la question du corps, on l'a dit tout à l'heure, le corps souffrant du mari qui nécessite des soins. Alors c'est vrai que la journée de la femme est rythmée par mettre du collyre dans les yeux parce qu'il a les yeux grands ouverts, ce qui n'arrange rien dans le tableau, évidemment. Il faut changer la perfusion, mais en même temps qu'elle s'occupe de ce corps, sa parole à elle grandit, enfle, gronde et va sortir de plus en plus fort. Il y a un moment donné où quand on ouvre les vannes, voilà, c'est un barrage qui se rompt, cette parole-là.
Oui, exactement, donc, parce que au début, la femme, c'est quoi ? Elle suit justement cette loi imposée par la famille, par la culture, par la religion. Et petit à petit, elle, quand elle prend conscience de sa situation, et ensuite, quand elle voit que c'est la première fois dans sa vie qu'elle peut parler de tout, et il n'y a personne pour lui dire à la ferme.
Alors là, parler de tout devant un homme et devant son mari, c'est quand même, exactement. La jouissance, elle est là beaucoup.
Imaginez cet instant. Alors là, justement, souvent on me dit qu'un autre, est-ce qu'une femme afghane peut parler de cette manière et tout ça. L'important, c'est de la situation. Moi, je ne suis pas un écrivain du temps. Hein. Je suis un écrivain de situation. Souvent, dans tous mes romans, ce qui est important, c'est la situation, pas le temps. Donc, je mets mes personnages dans une telle situation. Et ensuite, j'imagine, qu'est-ce qui se passe ? Alors justement, mettant une femme afghane, mettant n'importe quelle femme opprimée du monde entier dans une telle situation, qu'est-ce qui va se passer ?
La digue se rompt. Antoine Guillot ?
Oui, il y a un très beau conte à l'intérieur de ce livre, un conte que raconte une grand-mère à sa petite-fille sur un enfant fui des questions de vengeance terribles, et qui dit à un moment, voilà, c'est une illusion de penser trouver une fin heureuse à cette histoire. Est-ce qu'il y a une possibilité de fin heureuse à l'histoire que vous racontez ? Est-ce qu'elle ne vient pas du personnage que vous décrivez, du jeune Peshmerga qui peut-être est celui qui peut être sauvé.
Oui, c'est justement parce que, en plus, ce jeune garçon est entré justement par intrusion dans la vie de cette femme. Parce qu'au début, il la prenait comme une pute. Et petit à petit, il découvre que non, quand même. Et à travers ce garçon aussi, que la femme arrive à découvrir son corps et puis d'oser parler de son corps et de ses désirs. Et ça, c'est pour moi la chose la plus importante. Et puis, à travers justement cette relation, qu'elle arrive quand même à se détacher de quoi ? De cette trilogie qui est justement la loi du père, la morale de mère, et puis justement, l'amour propre de soi-même.
Alors, vous ne voulez pas en dire trop sur Tsenge Sabour, Pierre de Patience et Atik Raïmi pour que vos lecteurs découvrent ce récit et surtout pas en dévoiler les différents moments. Cette Pierre de Patience, vous découvrirez en lisant le livre, c'est vers la page 90, ce qu'elle est et ce qu'elle représente pour cette femme. Ce livre paraît chez POL, Catherine Millet, Racénéré, mais... Reste un trouble. C'est le début de l'avant-dernière phrase. Reste un trouble après l'écriture de Jour de souffrance, ce récit qui paraît chez Flammarion. Et je vous recommande encore une fois d'allier moi, qui est vraiment un complément non seulement nécessaire, mais très utile aussi à cette lecture.